prenez le temps de régler le volume de votre appareil. Pendant la randonnée, ne perdez pas de vue que vous êtes en montagne, sur des chemins parsemés de pierres et de branches. Regardez où vous marchez, ne prenez pas de risques, ne vous laissez pas emporter par la musique. Pour le chemin à suivre, des instructions vous guideront. Pour le reste, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, même s'il y a beaucoup de vrai. Et laissez votre imagination vagabonder parmi les vestiges de cette église abbatiale fondée en 1185, vers où je vous conduis. En bas, près du ruisseau, il y a un petit pont. Je vous invite à y descendre. Selon la saison à laquelle vous faites cette balade, il se peut qu'en chemin, vous soyez arrêté par une clôture à vaches. Dans ce cas, mettez votre appareil en pause, passez la clôture avec précaution, car elle peut être électrifiée, puis reprenez votre marche de l'autre côté.
On peut aussi maçonner un peu, hein.
Et en face, c'est bouclé tout le temps, il y avait beaucoup plus de plage avec les derniers.
Bah, c'est surtout que le haut est clair.
Ah oui, c'est ça, là, tout ça, c'est ça. Ouais, donc après, on est dans de l'angle, on n'est pas dans quelque chose de très plus de bonne forme.
Nous traverserons le pont. Ceux qui veulent peuvent faire une pause en son milieu.
Et puis après, pour un moulin,
en amont, peut-être le site d'une ancienne carrière et celui d'un moulin invisible aujourd'hui. Pour ceux qui sont encore sur le pont, finissons de traverser. Sur l'autre rive, une calade grimpe dans la montagne. Elle vous invite. Continuez sur la calade, puis sur le chemin qui la prolonge. Marchez d'un bon pas, ni pressé, ni paresseux.
Il faudrait peut-être s'entendre d'abord sur le sens du mot moine, qui désigne un solitaire, quelqu'un qui se retire du monde pour vivre à part et en quelque sorte qui, s'étant converti, c'est-à-dire retourné, abandonne les valeurs du monde pour contempler des réalités surnaturelles et leur accorder au fond toute son attention. Donc, le solitaire, le moine, est d'abord un ermite. Mais tout naturellement, un ermite qui a du rayonnement attire autour de lui des disciples, un certain nombre de personnes qui veulent avoir un guide dans la vie spirituelle. Et il se forme autour des ermites très souvent des communautés importantes auxquelles il convient de donner un règlement ou une règle. Ce qui fait que le monachisme oscille en permanence entre l'érémitisme d'une part et la vie communautaire ou la vie cénobitique. Ben, les rémitistes, ce sont les gens qui se retirent dans un désert, c'est-à-dire qui rompent avec le monde véritablement. Mais on imagine toujours l'ermite comme un solitaire. Or, très souvent, il y a des colonies d'ermites.
Quand vous serez en haut du chemin et qu'au loin apparaîtront les vestiges de l'abbaye, vous vous arrêterez. Au loin, derrière l'abbaye, la montagne d'Aujou domine les alpages. Les moines élevaient de grands troupeaux de moutons, ce qui les a conduits à jalonner leurs itinéraires de transhumance, de la plaine de la Croix jusqu'au massif alpin, d'abbaye, de prieuré et d'autres biens d'usage comme des moulins ou des fermes. Marchons droit sur l'abbaye. Nous arrêterons au seuil de la première porte.
La clôture, d'une part, la rupture avec le monde, c'est d'autre part la stabilité. On fait son salut dans un lieu précis, dans un monastère précis. Il n'est pas nécessaire de courir le monde pour.
Donc ça, c'est pareil, c'est des hypothèses, mais a priori,
ce qu'on. Bien entendu, on vit en communauté, en suivant la règle.
Et par contre,
car elle est un moyen de parvenir à la perfection. Et on obéit
tombé,
à l'abbé,
en fait, ils ont
car l'abbé est celui qui interprète la règle
toujours baptisé
qui
ça
est, en quelque sorte.
Les Chalaisiens, sûrement pas, hein, mais quand ça a été remanié, parce qu'on a trouvé une auge, hein, bêtement, pour les cochons, puis vu les dimensions, puis ça paraît pas illogique qu'ils élèvent le cochon dans le coin, quoi. Et donc ça, c'est un des chantiers qu'on a, sur lequel on a le droit d'avancer, puisqu'on est dans le monument, mais on est sur la partie remaniée du 17e, 18e, donc sur la partie 12e, c'est beaucoup plus complexe.
Oui. Engagez-vous un peu dans ce cochonnier.
Donc là, c'est pour ça qu'on a...
Et trouvez une place pour vous asseoir ou vous adosser.
Cette année, là, pour faire l'archéologie de la pierre.
Donc l'église, telle qu'on la voit aujourd'hui, en fait, vous voyez, là, on est sous un porche. Et puis, à la façon des moines de Chalais, parce que je ne vous en ai pas trop parlé des moines de Chalais, mais ce ne sont pas des cisterciens, mais vous verrez, l'ordre, quand même, la façon de croire est très très proche des cisterciens, dans la mesure où, pour eux, pour trouver Dieu, il faut accepter le plus rien. Il faut accepter l'humilité totale, le silence total. La règle, une des règles de Saint Benoît, c'était le silence. Les moines n'échangeaient pas du tout de paroles dans la journée. On avait donc une règle stricte, et puis il y avait cette idée que pour trouver Dieu, c'était vraiment dans le petit qu'on a en soi. C'était en allant vers ça qu'on allait le trouver. Le petit, ça peut être le petit enfant, ça peut être le petit fragile, le moment où vous êtes dans la fragilité, dans la maladie, dans tous ces moments de faiblesse, en fait, c'est dans cette acceptation-là qu'on peut avoir la chance de trouver Dieu. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que tout ça transpire dans l'architecture, et vous verrez que cette église, elle est nue. Elle est nue, on a la voûte, on a le cercle qui est omniprésent, donc on a toujours ce rappel à la maternité. Eh bien, on a ça dans la croyance des Chalésiens. Voilà. Qui pensaient peut-être que les Cisterciens avaient pris un peu trop de... On était allé vers quelque chose qui ne leur ressemblait plus. Voilà. Donc ils avaient créé cet ordre-là. Et il était puissant au Moyen-Âge. Mais il n'a pas perduré, on le sait, puisqu'aujourd'hui, on n'a plus de Chalésiens nulle part. Alors, on va pousser la porte de l'abbatiale.
Entrons avec eux. Trouvez un endroit pour vous asseoir ou vous adosser, mais pas trop loin du guide.
Alors, quels sont les mots qui vous viennent là? Un froid, un chaud plutôt, devrais-je dire. On a un peu froid quand même. Il fait pas trop froid.
Non, c'est bon.
Alors vous me dites dénuement, simplicité.
Il y a une très belle lumière.
On n'est pas distrait par tout ce qu'il y a autour, quoi.
Oui, mais il y a une lumière assez spéciale. Est-ce qu'on est dans un bâtiment donc de style roman, avec pourtant une hauteur roman, hein, mais une hauteur assez importante. Oui, on a 15 mètres de hauteur sous la voûte et des ouvertures qui sont plutôt grandes.
C'est pour ça, c'est sûr.
Oui, c'est plus bas et c'est plus sombre.
Ce qui est quand même étonnant, c'est qu'il y a une énorme lumière qui vient de l'extérieur.
Prenez le temps de circuler librement à l'intérieur de l'église.
On a l'impression qu'il y a...
Asseyez-vous.
Après, c'est
changer de point de vue, mais n'allez pas sous le toit.
Et alors, on n'a pas le soleil là aujourd'hui qui impacte sur la pierre, mais le choix de la pierre aussi était intéressant pour les Chalésiens, parce que le fait qu'il y ait des aspérités dans la roche fait qu'on a une vibration naturelle qui se fait au contact de la lumière du soleil. Vous voyez, on a une sensation de pierre vivante. Et c'était aussi l'idée des Chalésiens, c'était que pour eux, cette église, elle devait ressembler à un homme. Et alors je le fais avec les enfants, mais quand on se couche dans le même sens que l'église, en imaginant que la nef serait nos jambes, les bras du transept nos bras à nous, et le sanctuaire notre tête, il y a une véritable proportion entre nos jambes et la nef, nos bras et ceux du transept, notre tête et le sanctuaire. Pour la simple et bonne raison que... Il a utilisé quoi pour faire ses tracés au sol? Il a utilisé ce qu'il avait sur lui. Les dimensions de son corps, en fait. Hein, ce sont les mesures de son corps, sa paume de main, son palme, son empan, son pied, sa coudée. Tout ça a servi à faire les mesures de base. Donc sur sa canne, tout ça reporté va servir à tracer...
Thank you.
alors décidé d'appliquer à la lettre la règle de Saint-Benoît. Donc ils ont une conception extrêmement austère et en même temps très stricte de la vie communautaire selon la règle de Saint-Benoît. Ce qui les amène à rejeter tout ce qui s'était introduit dans la vie bénédictine, un certain confort de la communauté, car dans la vie bénédictine et à Cluny même, le moine a toujours été pauvre, mais il était pauvre dans un monastère très riche, ce qui évidemment paraissait quelquefois scandaleux. Donc on décide d'être véritablement pauvre, et comme il faut craindre la richesse, on travaillera de ses mains, selon la règle de Saint-Benoît, puisque Saint-Benoît prévoit à peu près 8 heures de travail manuel, 8 heures de prière et de lectio divina, et puis 8 heures de repos. C'est véritablement les 3 à 8 dans la règle de Saint-Benoît à cet égard. Et par conséquent, on travaillera. On travaillera pour vivre. Parce qu'à Cluny, on fait travailler les autres et on vit de revenus produits par le travail des autres. C'est le régime seigneurial, ça ne fait aucun doute. Cîteaux refuse ce type d'économie. Et on vivra du travail de ses mains. Et on ne s'enrichira pas parce qu'on ne travaillera pas plus qu'il ne faut pour vivre. On refuse le luxe des bâtiments, le luxe de la table, on refuse bien entendu le décor somptueux des églises, il n'y aura pas d'objets en or ni en métal précieux, les croix seront en bois ou tout juste peintes, on s'habillera de laine écrue, etc. Donc une conception qui refuse toute facilité.
En 95, il y a eu une fouille là-devant, sur ton plan, j'ai vu ça.
Oui. Ben, donc, en 95, ça doit être le premier projet de charpente qu'on a fait. Où donc, l'idée, c'était, à l'époque, c'était une toiture classique, hein, mais pareil, qui reposait sur 6 sur piliers. Et donc, pour faire ces 6 piliers, on avait eu une archéologue qui était venue pour faire les fouilles au fur et à mesure qu'on creusait, pour faire des blocs béton, quoi. Et c'est là qu'on est tombé sur les tombeaux.
À quoi ça ressemble, ces tombeaux ?
C'est une grosse pierre taillée. Enfin, un peu en sarcophage, quoi, quand même. Non, ça a de la gueule.
En creux ?
Ouais.
On dépose le corps dedans.
Oui, il y avait plein d'ossements. A priori, alors, ce qu'on a supposé, parce que... la première fois qu'on les a découverts, ils avaient a priori, les corps étaient disposés chacun de leur côté, etc. Et par contre, quand donc l'archéo est tombé dessus, elle a regroupé, elle a envoyé quelques ossements à Marseille, elle a regroupé le reste. Donc quand on a rouvert avec Johan, on est tombé que sur les crânes. Ça fait un drôle d'effet, hein, si tu soulèves le machin.
Le crâne.
Ouais.
Le crâne, c'est vraiment un tibia, bon.
Puis un crâne, ça va, mais 7-8 crânes qui te regardent, bon, bonjour messieurs.
Avancer sous le toit, dans ce qui était le cœur de l'abbatiale. Rapprochez-vous du mur de gauche.
De l'autre côté, donc ce mur-là.
Longez les murs, faites le tour intérieur du cœur.
Ça correspond à tous les coups, ça correspond.
Prenez le temps de regarder chaque pierre dans ses détails, de les caresser.
Là, on est après. Là, donc, peut-être on parlera de ça après.
US, qu'est-ce qu'il faut comprendre ?
C'est les unités stratigraphiques, ça c'est la... C'est notre numérotation archéologique classique, mais je l'ai indiqué dans l'introduction du rapport. Donc c'est une numérotation qui permet après de faire une description de s'y retrouver. C'est l'unité stratigraphique, c'est-à-dire que ça correspond à un même état de construction.
D'accord.
Donc moi, je reviendrai tout à l'heure, parce que là, on a le mur.
Oui, le mur de
Voilà, donc pour ça que j'ai différencié ces deux... Ces deux US, bien que je les ai mis en bleu toutes les deux, puisque ça appartient à la même phase. Enfin,
oui.
On suppose. Donc ce mur-là, voilà, par contre lui, pratiquement entièrement d'origine.
Oui, sauf l'angle. Voilà.
Et donc l'angle, on voit très bien, on a d'autres types de tailles de pierre à tous les coups. Hein, il n'y a pas de... Ça oui, correspond voilà, bien.
C'est le parement
ocre. Alors oui, finalement peut-être un peu plus que ce que je pensais de pierre d'origine, de ce côté-là.
Et ça ne peut pas avoir été un remaniement.
Parce que tout ça, c'est médiéval.
Bon, disons que les
pierres le sont.
Les pierres sont, sont taillées.
Voilà.
Et l'angle pourrait être en place, ça pourrait.
Parce que là, on pourrait penser à autre chose. On a ces deux pierres-là qui sont de la même dimension. On peut dire un linteau ici. Parce que c'est curieux d'avoir des coups de sable comme ça, on n'en trouve pas.
Ça pourrait être une niche dans le transept alors ? Ouais, ça serait. Ouais, mais.
Oui, parce que si on imagine là, l'escalier qui monte au dortoir ici, on peut peut-être imaginer une niche pour la lumière, pour une chandelle.
Ah, vous voyez l'escalier qui monte au dortoir là ?
Je sais pas, imaginez pas là. Ah, mais c'est vrai. Vous l'avez imaginé.
Non, mais c'est intéressant d'avoir ce. Non, mais c'est génial. C'est génial. Parce que moi, ça me. Ouais. Non, mais c'est de ça. Moi, j'aimerais bien que les gens, ils me dessinent comment ils voient à partir des éléments de leur connaissance.
En comparant avec Boscodon et Valbonne.
On a besoin de ça. Oui, mais moi, j'ai besoin.
Mais bon, c'est pour ça que j'espérais bien.
Alors, il est dans quel sens l'escalier ? Non, mais sérieux. Vous le voyez comment là ? Montrer au dortoir avec la. Comment c'est à Boscodon ? C'est au bout du train.
Au fond du cœur, il y a une issue. Sortez par là et prenez à gauche.
Donc ça serait comme ça. Il rentrerait dans le dortoir là. Non mais il faut absolument que vous nous le dessiniez ça.
Il y a la porte et puis il y a l'escalier, soit un escalier droit.
Ce petit espace à l'abri du toit va nous servir de poste d'observation. Si vous voulez, trouvez un endroit pour vous adosser. De là où vous vous trouvez, vous avez une vue sur la zone où se trouvait les bâtiments conventuels, le lieu de vie des moines. Là, devant vous, imaginons-les ensemble. Nous pouvons supposer, avec les informations que nous avons sur les abbayes chalésiennes, que, partant de l'abbatiale, prolongeant le transept nord, où vous vous trouvez en ce moment, partait droit devant vous un bâtiment de 15 mètres de long environ. Il abritait une sacristie, lieu de dépôt des objets et vêtements du culte, puis une salle capitulaire ou chapitre, lieu essentiel de la vie des moines, car la communauté s'y réunit quotidiennement pour s'informer et prendre des décisions sur tous les aspects de la vie de l'abbaye. On y recevait aussi les visiteurs de marque. À l'étage, sans doute le dortoir des moines, auquel on accédait par un escalier en bois ou une échelle meunière. Au bout de ce bâtiment, un second, le prolongeant sur votre gauche, parallèlement à l'abbatiale. On y trouvait sans doute les communs, c'est-à-dire les sanitaires, la cuisine, le réfectoire et peut-être à l'étage, le dortoir des convers, s'ils ne partageaient pas celui des moines. Les frères convers, n'étant pas nobles, ne pouvaient devenir moines. Ils vivaient cependant comme eux et respectaient les mêmes règles. Sur votre gauche, depuis l'abbatiale, jusqu'au bâtiment de la cuisine et des communs, un mur fermait l'ensemble sur la cour intérieure appelée préau ou cloître. Le cloître pouvait être bordé, le long des bâtiments, d'une galerie couverte en charpente ou en pierre voûtée pour assurer, par mauvais temps, la circulation des moines. Dans l'ensemble de l'abbaye, on respecte le silence. À l'exception du chapitre et de l'abbatiale pendant les offices, où la parole est très réglementée. Les Chalaisiens élevaient de grands troupeaux de moutons. On trouvait sûrement autour de l'abbaye des bâtiments agricoles, comme des granges ou des bergeries. Reprenons notre marche. Partez sur votre gauche. Remontez l'abbatiale en restant à l'extérieur. Jusqu'à trouver une porte, flanquée sur sa gauche d'une grande niche dans le mur, qu'on appelle armarium. Elle servait de bibliothèque aux moines.
Cet armarium, comment j'en parle ? C'est quand même un objet, un lieu plutôt singulier. Comment j'en parle ? Est-ce que j'en parle en tant qu'armarium ? Est-ce que je peux l'utiliser pour parler d'autre chose ou pas ? En fait, j'ai regardé par rapport à des armariums mieux conservés. J'avais pas remarqué, mais celui-là, manifestement, il semblerait qu'il y ait... on voit un peu des traces d'encoches. Dedans. Voilà. Donc, on peut quasiment remettre des étagères, et puis, je ne vais pas dire remettre des portes, mais enfin, à voir, quoi. C'était un lieu pour mettre de l'information, on mettait des manuscrits. Est-ce qu'on ne remettrait pas de l'information dans l'armarium aujourd'hui, quoi ? Voilà. Et par ailleurs, j'ai vu que souvent, les armariums, ils étaient intégrés au cloître, donc en bout de passage couvert.
Toute abbaye doit disposer du missel, de la règle, du psautier, de l'hymnaire, du collectaire, du lectionnaire, de l'antiphonaire, du graduel. C'est là le fond indispensable pour assurer l'office divin et garantir l'observance de la vie monastique. C'est au chantre qu'est confié le soin de veiller à la confection et à la conservation des livres. C'est lui qui les distribue et qui les range le soir avant qu'on plie.
À côté de l'armarium, la porte des convers. Avec son système de verrouillage de porte inclus dans le mur. Empruntons-la. En face, sur votre droite, un escalier monte à une porte qui fut celle de l'école et de la mairie de Clauzonne au XVIIIe siècle. Allons jusqu'à elle. Trouvez-vous, à quelque distance de l'abbaye, un beau point de vue pour finir en beauté. Thank you. venez d'écouter une proposition de David Bouvard avec les voix de membres de l'association des Amis de l'abbaye de Clausone. Dans l'ordre d'apparition, Patrick Gonnet, Henri Faure, Robert Vargouze, Bruno Faure du CIVU de Haute-Marèze. Merci à Sophie Savina pour sa visite de l'abbaye de Boscodon, à Charles Ronzani et Alexandre Vernin du Parc des Baronnies et à Nathalie Molina de l'INRAP. Et des extraits de Clairvaux, de l'abbaye à la prison, de Philippe Garbi, Radio France, 1990.